Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est bien contre histoire, et cette fois-ci, on va plonger en Palestine. L'actuelle exposition qui a lieu dans les locaux de Canal Sud présente des tableaux et des documents indispensables pour s'y retrouver un peu. En particulier, le formidable ouvrage « La Palestine en 50 portraits » qui rassemble des articles d'histoire et d'actualité. On savait que la bande de Gaza était un des territoires à la plus forte densité de population au monde et que jusqu'au 7 octobre 2023, embargo, pénurie, chômage y rendaient la vie quotidienne très problématique. Et puis on s'était habitué, du fond de notre confort paisible et relativement éloigné. On ne se rendait pas compte. On pouvait croire que les Palestiniens étaient tous des soldats aguerris, vaccinés en quelque sorte contre le malheur, le colonialisme, l'apartheid. Adaptés, quoi. Ça ne nous empêchait pas de dormir. Et puis le 7 octobre a donné le signal de ce qui ressemble de plus en plus à un génocide bien organisé, selon le processus connu, déportation et assassinat de masse, qui rappelle terriblement le génocide arménien, sinon pire, dans son système et dans ses résultats. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y avait des enfants à Gaza, des écoles, des universités, des hôpitaux, des théâtres, de la vie, au-delà des armes et des tunnels. Devant les photos des décombres, on se demande comment on vivait avant, à Gaza. Le formidable ouvrage « La Palestine en 50 portraits » présente des articles d'auteurs, d'historiens et journalistes spécialisés qui nous bousculent un peu, ou beaucoup, et nous ouvrent l'esprit. C'est paru aux éditions Rive-Neuve dans la collection dirigée par Sabri Giraud. Dans l'urgence, j'ai choisi deux témoignages récents. Je remonterai à la préhistoire une autre fois, avec ce même volumineux recueil. Alors tout d'abord, un article de Sabri Giraud lui-même pour donner le ton de l'ensemble. Il nous parle de Naji Alali, sous-titre « La mère, lucidité d'un enfant des camps ». Créateur prolifique, avec plus de 10 000 dessins à son actif, Naji Alali est sans doute le plus célèbre des dessinateurs de presse dans le monde arabe. Il a fait de son œuvre une arme politique, et plus encore, un acte de résistance. Ses caricatures en disaient souvent bien plus long que de longs articles. Quelques traits assortis d'un commentaire sans appel et l'essentiel était dit. Naji est ainsi. Il t'épargne de lire le journal, tout comme il épargne au journal bien des mots. Dira de lui Mahmoud Darwich.
Cent mille morts dans le Sahel africain, 200 000 morts en Éthiopie. Au XXe siècle, on crève de faim ou on massacre au Chili. La machine infernale nommée progrès ne s'embarrasse pas des déchets. Les grosses mouches bleues se posent sur les corps. La peau est terreuse et craque comme parchemin. Les os cassent d'un seul coup, ils n'iront pas plus loin. La faim les terrasse, ils sont 300 000 morts. Thank you. à travers la brousse des jours tu as marché, vers le salut, vers le camion de blé, qui t'aura fait durer juste une demi-journée. Où chaque instant l'enfant, au ventre trop gonflé, hurle sa mort sur une mamelle vidée, et s'éteint sur sa mère qui ne peut même plus pleurer.
Et pendant ce temps-là, allons-nous à Berlin, le téléphone sonne, annonce les cargaisons. Qui vit de cette Afrique aux ressources sans fin, ouvre les bénéfices, les autres crèvent de faim.
Crève noire, crève, l'Afrique doit payer. L'État, les bourgeoisies des pays africains, gestionnaires despotiques des biens à exporter, avec les grandes firmes marchent main dans la main et soldent des pays pour quelques gros deniers. Crève noire, crève, l'Afrique doit payer. L'énergie, les cultures, les minerais, la main d'œuvre, rien ne doit échapper au maître du profit. Les multinationales gentiment font leur beurre. Tant pis s'il y a de la casse ou s'il y a du gâchis. On fera quelques quêtes par messieurs les curés pour cacher le scandale et décongestionner le règne du profit. Il sera bien gardé, on aidera le tiers-monde à mieux le faire crever.
Et pendant ce temps-là, dans notre bel Occident, on troque de la culture, des canons rutilants contre des gisements miniers ou pétroliers. De belles plantations bien rentabilisées.
Aux quatre coins du monde, par le feu et le fer, l'injustice est première, mais tout peut se défaire. Car tous ces brûlots que tu as allumés, dans le sang et les cendres ils seront consumés. Les masses révoltées préféreront bientôt lutter le fusil au côté.
Naji Alali a appelé son personnage fétiche Handala, comme la coloquinte dont la combustion permet de fabriquer de l'encens. Handala est un jeune garçon, dépenaillé, pieds nus, hirsute, qui doit avoir plus d'un point que jeune Naji, des années 50-60. Naji avait 12 ans, quand les milices sionistes vidèrent de ses habitants son village galiléen de Sharaja. Il se réfugie avec sa famille au sud de Beyrouth, au camp d'Aïn al-Eloué. Handala exprime donc l'amertume, l'impuissance devant cette expulsion, son exil, les violences et trahisons, et sa solide détermination à la résistance du côté des opprimés. En 1952, quand éclate en Égypte la révolution nassérienne, toute cette génération s'enflamme et couvre les murs de slogans pleins d'espoir. En 1959, Nadji s'inscrit aux Beaux-Arts de Beyrouth et fait de son art une arme politique. D'abord, dans une publication manuscrite, Le Cri, Al-Sarka, puis dans la revue La Liberté, Al-Ouriya, dont le rédacteur en chef, Ghassan Ghanafani, aura une très forte influence sur son évolution. En 1964, la revue koweïtienne Al-Taliya, L'Avant-Garde, le fait à la fois journaliste, rédacteur et illustrateur, bien sûr. Nadji et son personnage, Handala, ont pris dès lors leur envol. En 1969, Handala apparaît dans un dialogue tonique avec son créateur. Nadji m'a dit « Ça baigne pour tout le monde est au paradis. Ça ne peut pas aller mieux que ça. Du coup, sur quoi tu veux que je dessine? Comment je fais pour vivre, moi ?» Il voulait chercher un autre boulot. Je lui ai dit « Espèce de lâche, de déserteur, j'ai pas mâché mes mots. » Je lui ai dit aussi que j'étais prêt à faire un dessin pour lui chaque jour. Et je lui ai fait comprendre que je n'avais peur de personne, moi, sauf de Dieu. Et ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent paver la mer, qu'ils aillent se faire voir. D'abord, dessiné de face, Handala a tourné le dos à ses lecteurs après la guerre de 73 pour marquer son rejet des soi-disant « solutions » américaines de capitulation et de normalisation. Simple piège tendu par l'idéologie impérialiste et sioniste, tout en réaffirmant son indéfectible fidélité à la cause palestinienne, Nadji Halali prenait ainsi le lecteur à témoin, l'amenant, à travers Handala, à plonger son regard sur les injustices infligées à son peuple, pour mieux l'inciter à s'engager à son tour. Alors un petit rappel historique sur ce qui s'est passé en 82. Du 16 au 18 septembre 1982, les milices chrétiennes libanaises, les phalangistes, supplétifs des troupes d'occupation israéliennes qui contrôlent toutes les issues des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, perpètrent un massacre de masse. Au terme de ces 3 jours de tuerie, plusieurs milliers de Palestiniens, entre 1500 et 3000, gisent dans les ruelles et les maisons des camps. Comme l'a dit Jean Genet dans « 4 heures à Shatila ». Ce sera en 1968 au Koweït, dans le journal La Politique, Al-Siyasa, puis dans Al-Safir, l'ambassadeur, journal libanais. En 1974, il devient à la fois témoin et acteur de la guerre civile libanaise en se faisant reporter-dessinateur. Chronique de la guerre civile, de l'invasion israélienne du Liban, des pilonnages de Saïda et de Beyrouth, du spectacle tragique des cadavres jonchant le sol des camps de Sabra et Shatila, ces dessins se feront à partir de ces années noires à la fois plus féroces et plus intransigeants. Se sachant menacé de toutes parts en raison des rivalités fratricides qui déchirent le Liban, Nadji Halali rejoint finalement le quotidien koweïtien Al-Kabas, le Tison, en 1983. Puis, à la suite de son expulsion du Koweït en 1985, il rejoint son édition internationale basée à Londres. Dans cet exil forcé, il croit encore pouvoir dessiner librement, lorsqu'il est mortellement blessé dans une rue de Londres en rejoignant son lieu de travail, le 22 juillet 1987. L'enquête traîne avant d'être abandonnée, comme le furent toutes celles des intellectuels et cadres palestiniens assassinés en Europe. Elle sera relancée, sans davantage de résultats, 30 ans plus tard. Nagy décrit et dessine l'univers symbolique construit autour de ces icônes, acteurs incontournables du drame qui emporte les Palestiniens et le monde arabe. Les protagonistes de ce théâtre cruel, Handala les a identifiés et désignés dès sa première apparition, et ce sont eux qui peuplent ses dessins. On y retrouve le bon, le mauvais, le laid, l'arriviste et le mollasson. Personnages emblématiques de son œuvre, Handala, Fatima et Abu Saber sont l'expression par excellence des opprimés, des sans-voix. Ils se font l'écho d'un peuple dispersé et abandonné, pauvre mais digne, conscient des complots ourdis contre lui et vivant de l'espoir d'un retour à la patrie. Représenté indistinctement sous les traits de Fatima ou de la tante Hanifa, la croyante authentique, la femme palestinienne est l'incarnation même de la Palestine, de la terre et de son peuple. Elle endure mille souffrances, elle pleure son pays. Elle est aussi celle qui protège ses enfants, panse les blessures, fleurit les tombes des martyrs et porte les espoirs en l'avenir et la volonté de résister. À ses côtés, Abu Saber, père de la patience, parfois simplement désigné comme Al-Zalamé, le gars, il est l'archétype du réfugié pauvre que l'on a privé de sa terre. Intègre, il subit dans sa chair toutes les formes de l'oppression, la prison, la torture, la trahison. En pleine conscience, il fait le choix de la lutte et se joint aux fédayines. Accablé et le plus souvent impuissant face à une destinée impitoyable, ces personnages restent fermes dans leurs convictions, témoignant et résistant à l'occupation israélienne, tout entière réduite au masque haineux du soldat colon sioniste coiffé d'un casque arborant l'étoile de David. La tragédie palestinienne ne saurait pourtant se réduire à la seule figure de l'ennemi sioniste et ses alliés internationaux, États-Unis en tête. Nagy Al-Ali dénonce les faux-semblants, l'abandon par la communauté internationale, l'immobilisme et les compromis des États arabes, tout comme ceux de la direction palestinienne. Il condamne les intrigues et les lâchetés de tous ceux qui se font complices d'une conspiration menée par les Américains afin de promouvoir une prétendue paix qui, en réalité, ne fait que perpétuer la répression et bafouer les droits des Palestiniens. À l'opposé de Handala, ils sont symbolisés par un personnage gras et repu, lâche et veule, qui réunit à lui tout seul tout ce qu'exècre le dessinateur et son personnage fétiche. La bourgeoisie arabe, les nantis, les opportunistes, les traîtres, les forces réactionnaires, les régimes arabes répressifs, en fin de compte, tous ceux qui, pour défendre égoïstement leurs intérêts de classe, s'opposent à la lutte et à un possible retour en Palestine. Sa satire politique n'épargne pas le leadership palestinien, dont il fustige dès le début des années 70 une ligne politique qu'il juge défaitiste. Il s'opposera avec véhémence à l'adhésion par la direction de l'OLP à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoyait le retrait israélien des seuls territoires palestiniens occupés en 67, contre une garantie des frontières de l'entité coloniale sioniste. Pour Nagy Al-Ali, cette acceptation n'était rien moins qu'une trahison morale et politique dont Yasser Arafat, en tant que chef de l'OLP, portait l'entière responsabilité. Ainsi ne manquait-il jamais l'occasion de brocarder les cadres palestiniens embourgeoisés, en les représentant aussi bedonnants et suffisants que leurs homologues arabes, mais portant chapeau ou cravate aux couleurs du kéfier palestinien, ou plus cruellement encore, en transformant le V de la victoire lancé par le leader palestinien en une paire de mains levées en signe de capitulation. Face à l'hostilité des cadres et des fidèles du Fatah, il se défendit d'avoir jamais mené la moindre croisade contre l'organisation. Pour lui, l'essentiel était avant tout de dénoncer des erreurs coupables. « Ils essaient de me coller une étiquette, » dira-t-il. « Ils ont dit que j'étais marxiste, puis ils ont dit que j'étais islamiste. Ils essaient de me ranger dans une case. Pourtant, je n'appartiens qu'à la conscience de toutes les personnes qui ressentent ce qui ne va pas. C'est cette conscience que j'essaie de refléter. » Nadji Alali jetait un regard intransigeant sur l'actualité palestinienne, libanaise et arabe. Celui des Palestiniens fuyant sur les routes de l'exil en 1948, celui d'une génération arabe flouée de ses aspirations nationalistes. Des années plus tard, ces dessins restent d'une actualité saisissante, comme si pour les Palestiniens, l'histoire se répétait, inlassablement, dans une longue litanie de tragédies, de compromissions et de trahisons, mais aussi dans une manifestation sans cesse renouvelée de convictions politiques et de luttes opiniâtres, comme le montre à l'envi d'innombrables dessins à la manière de Nadji Alali, qui ne cessent d'être publiés aujourd'hui encore, au gré de l'actualité. Cette œuvre n'a rien perdu de son énergie combative.
Faudra-t-il que tu partes à l'âge de 45 ans, que tu quittes la ferme, la terre et les champs? Le jugement a tranché, vend la terre que t'as louée. En fin de bail, c'est régulier, tu n'es qu'un petit fermier. Le cumulard peut tout oser, la loi est de son côté, la loi est de son côté. Tu n'arrêtes pas de travailler, ça change rien, il veut te baiser. Ton travail, il s'en fout, il veut la terre, un point, c'est tout. Tu ne sais être que paysan, c'est vraiment pas polyvalent. Si tu t'entêtes et si tu restes, si tu t'entêtes et si tu restes,
t'es hors la loi.
Thank you. entre le maire et le curé, la vieille noblesse et la télé, la morale était sacrée, la politique c'était péché, toutes ces valeurs vont basculer.
Quelle conscience doit émerger de la lutte, de la solidarité, de la solidarité.
Le foncier, on sait, l'arrache, les cumulas restent dans l'ombre à grignoter parcelles en ombre. Les promoteurs n'ont pas de soucis, vas-y préfet, tu peux exproprier.
Et il y a l'armée toujours vorace et qui partout se met en place. Bien se décider pour que cette terre privatisée soit répartie collectivement. Et les armes d'un réchangement sont à chercher dans les luttes exploitées, dans les luttes exploitées, dans les luttes exploitées.
Et un peu plus loin, nous allons voir l'article de Flora Youssef. Portrait d'Aïcha Odé. Flora Youssef est doctorante en sociologie politique à Paris 8. Elle prépare une thèse sur la participation des femmes aux mobilisations contre les pratiques carcérales israéliennes. Affaire à suivre, comme on dit, et passionnément. Son portrait d'Aïcha Odé donne le ton. Aïcha Odé, parcours d'une prisonnière politique. Militante du mouvement de libération nationale palestinien, Aïcha Odé appartient à la génération des premières détenues politiques après l'occupation de 67. Elles feront face à l'administration pénitentiaire de l'occupation, tout en résistant à la torture durant les interrogatoires, ainsi qu'aux mauvais traitements et aux nombreux sévices subies pendant leur détention. Ces femmes engagées seront également très actives au sein du mouvement de solidarité qui prendra forme aussi bien dans les prisons qu'à l'extérieur. Aïcha Odé est née en 1944 dans le village de Deir Jarir, à l'est de Ramallah. Dès sa petite enfance, elle est marquée par les récits de sa tante maternelle, rescapée du massacre de Deir Yassin. Le 9 avril 1948, les milices sionistes massacrent entre 120 et 250 habitants palestiniens de tous âges dans le village de Deir Yassin à l'entrée de Jérusalem. Le 9 avril 1948. Après l'école élémentaire, Aïcha sera la première fille de son village à suivre les études secondaires dans un lycée de jeunes filles de Ramallah. À l'occasion des trajets quotidiens depuis son village jusqu'à son école, elle est profondément touchée par le spectacle désolant des camps de réfugiés installés aux abords de la ville. Les mouvements de décolonisation et de libération nationale dans les années 50-60 lui offrent, ainsi qu'à toute sa génération, une promesse d'indépendance. Une enseignante, attentive à l'intérêt que porte son élève au débat politique, l'invite à rejoindre le mouvement des nationalistes arabes, qui deviendra le FPLP. Elle s'implique dès lors dans toute une série d'actions citoyennes selon les deux grands axes de l'engagement militant, la prise en charge des besoins locaux et les mobilisations contestataires, dont la lutte armée. Lors de la guerre de juin 67, Aïcha a 23 ans. jeune enseignante de mathématiques à Ramallah, elle est de tous les rassemblements, manifestations et premières grèves lancées dans les établissements scolaires palestiniens. Elle milite aussi ardemment pour le boycott des échanges commerciaux avec l'occupant, le fameux BDS. BDS, dont on retrouve la création dans l'histoire populaire de la résistance palestinienne, l'espoir et l'autonomisation par Omar Barghouti. Donc boycott, désinvestissement et sanctions, BDS contre l'apartheid et l'occupation de la Palestine. Édition de La Fabrique en 2010. Enfin, elle s'enrôle au sein du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui, avec d'autres mouvements clandestins membres de l'Organisation de libération de la Palestine, s'efforce de mobiliser la population. Au fil des discussions avec plusieurs de ses collègues, elle choisit de rejoindre la lutte armée. Comme la majorité des fédayines, hommes ou femmes, elle n'informe pas sa famille de sa décision et rejoint en secret un camp d'entraînement militaire pour une initiation rudimentaire de 2 semaines en Jordanie. Son frère, militant politique recherché, s'y trouve lui aussi et rend ce séjour possible aux yeux de ses proches. Depuis son retour de Jordanie, elle retrouve régulièrement les membres d'une cellule clandestine lorsqu'une camarade, au début de 1969, lui propose de prendre part à une attaque. Le 22 février 1969, plusieurs charges dissimulées explosent dans un supermarché fréquenté par les soldats en permission. 2 Israéliens sont tués et 10 autres blessés. 2 charges sont désamorcées. Les forces d'occupation opèrent une rafle de grande envergure et arrêtent quelques 300 Palestiniens. Aïcha Odeh se cache dans une maison des environs de Ramallah où elle est arrêtée le 1er mars. Emmenée à la Maskoubiya, le centre d'interrogatoire de l'armée israélienne à Jérusalem, elle y sera interrogée et torturée 45 jours durant, expérience qu'elle décrit comme une rencontre avec la mort, et qui constitue pour elle un tournant dans son rapport aux politiques. Elle assume ses actes et répète « c'est mon droit », expliquant par là que son combat politique est légitime et qu'elle ne revendique que ses droits les plus élémentaires. S'il arrive que des prisonniers tentent de dissimuler leur engagement politique pour se protéger, Aïcha Odeh choisit quant à elle l'affrontement et direct. En dépit des promesses d'une peine moins sévère pour elle, si elle reconnaît avoir été manipulée, notamment par sa famille, elle campe sur ses positions et brave la fureur des geôliers. L'interrogatoire devient dès lors une confrontation ouverte, frontale, un face-à-face impitoyable avec l'occupant. Pour Aïcha Odeh, il s'agit d'un tournant dans sa vie qui va lui permettre de s'accepter totalement telle qu'elle est, une femme, une combattante, qui tient bon comme un homme. Pendant ces 45 jours, les siens sont sans aucune nouvelle d'elle. Ils se rendent quotidiennement au centre d'interrogation et après de cruelles heures d'attente, ils sont à chaque fois renvoyés au lendemain. Ils lui raconteront plus tard les fausses informations qu'on leur a communiquées pendant cette période. Elle aurait été envoyée en urgence à l'hôpital ou encore elle aurait perdu la vue. Au début de 1970, le tribunal militaire de Lod, près de Tel Aviv, la condamne à une double détention à perpétuité et en vertu de 15 chefs d'accusation comportant notamment son refus de livrer des informations et son appartenance au FPLP, à une peine complémentaire de 10 ans d'emprisonnement. Elle est alors transférée à la prison de Ramla, dans un bâtiment où sont enfermés aussi bien des condamnés juifs que de droit commun que des prisonnières palestiniennes. Ces dernières vont mener un combat de longue haleine pour faire reconnaître leur statut de détenues politiques. Elles réclament en premier lieu le droit de lire, d'écrire et de se réunir. Mais dès leur première rencontre avec la directrice de la prison, celle-ci les accuse de n'être que des meurtrières d'enfants qui détestent les Juifs. Pour faire valoir leurs droits, elles lancent plusieurs grèves, refusent de se lever à l'appel de leur numéro, de rejoindre les ateliers de travail ou d'ouvrir la porte des cellules pour inspection. Elles expliquent également leur cause tant aux autres détenus qu'aux gardiennes. Pour Aïcha, c'est le moyen de surmonter l'épreuve de l'enfermement et de poursuivre son combat.
et celui-ci est parfois couronné d'un certain succès. Une directrice, par exemple, finit par apprécier ses prisonnières cultivées et engagées, et par reconnaître leurs droits à un pays. Mais ses supérieurs, alertés, décident aussitôt de la muter. Un peu plus tard, une gardienne d'origine française, récemment immigrée, leur annonce, après plusieurs mois de discussion avec les prisonnières, sa décision de retourner dans son pays natal. Autant de victoires pour ces combattantes qui endurent les privations et les dures conditions de vie en prison. Elles vont lutter plusieurs années avant de pouvoir se procurer quelques livres et pour obtenir d'être placées dans un bâtiment distinct de celui des prisonnières de droit commun. Les seuls contacts qu'elles entretiennent encore avec leur organisation politique se font par l'intermédiaire des avocats et y sont aussi limités que risqués. Pour tenir bon et ne pas rester inactives, elles font du sport, chantent et dansent. Elles se forment politiquement à partir des connaissances de chacune. Pleines d'espoir, elles suivent attentivement les actions militaires conduites par les organisations palestiniennes qui réclament la libération des prisonniers. Un matin, une gardienne appelle plusieurs noms. Les détenus concernés doivent préparer leurs affaires. En voyant la mine défaite des soldats, elles comprennent que quelque chose se prépare. Après leur transfert dans une autre prison, elles sont rejointes en fin de journée par des représentants de la Croix-Rouge. Un échange de prisonniers est prévu. Le lendemain, Aïcha apprend qu'elle sera déportée. Elle hésite, mais après 10 années passées en prison, elle se résigne à être expulsée vers la Jordanie. Le 14 mars 1979, on la fait monter dans un avion. Attachée au siège, les yeux bandés, elle subit encore les menaces des soldats. « Ils disaient qu'ils allaient nous tuer avant qu'on atterrisse !» À la descente de l'avion, elle a la surprise de découvrir des montagnes enneigées de la Suisse, où elle doit faire escale avant d'être conduite en Jordanie. Pour elle, comme pour tant d'autres prisonniers politiques, la sortie de prison ne signifie pas la fin des tourments. Car les autorités d'occupation continuent d'exercer toutes sortes de pressions sur les ex-détenus et leurs proches. Leur libération, tenue secrète, a lieu en pleine nuit et il est interdit de la célébrer. Les menaces d'une nouvelle arrestation s'accompagnent de pressions contre les autres membres de la famille. Pour Aïcha, l'exil semble plus difficile à supporter que la prison. En Jordanie, il lui est interdit de quitter le territoire. Placée sous la surveillance des autorités locales, elle doit se signaler au commissariat chaque semaine. Employée au bureau des familles de martyrs, institution de l'OLP qui porte assistance aux proches des blessés, des prisonniers et des morts au combat, elle peut à nouveau participer à la vie politique tout en se pliant à l'injonction de discrétion qui lui est imposée. Elle se marie. Mais son époux est renvoyé par les Jordaniens dans les territoires occupés palestiniens, où il se retrouve, lui aussi, interdit de toute sortie du territoire par l'administration militaire israélienne. Séparés, ils décident de divorcer et Aïcha de ne plus se remarier. Les séquelles des tortures physiques subies pendant son interrogatoire ont fait de sa vie intime une source de souffrance. En novembre 1994, après les accords d'Oslo, elle fait partie des membres de l'OLP, autorisée à rentrer dans les territoires occupés palestiniens de Cisjordanie, et contrairement à beaucoup d'autres, elle revient dans son village d'origine. C'est pour elle une libération. « J'ai vendu tout ce qui m'appartenait, je me tenais prête, je rentrais chez moi. » Pour Aïcha, cette décision lui permettait de se réinscrire dans le faisceau de ses relations familiales et communautaires qui tissent le quotidien d'une vie ordinaire, interrompue depuis son arrestation.
Little Sean a 15 ans ne connaît que la guerre. Et depuis sa venue sur ce coin de terre, l'armée d'occupation. Vos visages noircis et partout à l'affût, doigts crispés au fusil. L'armée est vigilante à chaque coin de rue. On fouille et on contrôle, se tenant bien en vue. Et plusieurs fois par jour, on pousse ta fenêtre et la peur au visage. Le Britannique inspecte, les routes sont coupées. Les quartiers, isolés, 15 mètres barbelés, perspectives emmurées, fenêtres et vitrines aux palissades noires que les bombes ont soufflées, ainsi que certains toits. Les écoles sont fermées, occupées par l'armée. Il ne reste que la rue aux enfants sans été, à 8 ans, à 10 ans, vieillis par la violence. Ils font des barricades fragiles comme l'espérance. Little Shaun, tu as vu les casquettes chargées, les tirs d'avertissement. Et les rabats balades qui éclatent les membres et vous brisent la tête. T'as révolté de trop, on sort à l'étouffer. À Belfast, à Derry, les hommes sont arrêtés, avec ou sans motif et sans être jugés. Sont mis en détention à Maidstone, à Lancash, pour 2 semaines ou 8 mois. Ils apprennent la peur. Little Shaun a 15 ans, ne connaît que la guerre. Mais il a tant souffert qu'il ne peut plus se taire. La bombe et le fusil restent sa seule espérance jusqu'à ce jour dernier où, dans la froide Irlande, en amorçant sa bombe, sa vie s'est déchiquetée au rêve de liberté.
Farouchement opposée aux accords d'Oslo, Aïcha Odeh a bien du mal à se reconnaître dans les politiques menées alors par la direction palestinienne. Aussi, elle se tourne désormais vers une transmission d'expérience et consigne par écrit les détails des interrogatoires qu'elle a subis. Et je vous en lis une page. Récit de prison. Je reculais et croisais les bras sur ma poitrine pour me protéger. Un soldat a demandé aux autres de me déshabiller de force. J'ai résisté, en vain. J'étais nue et sans défense. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos et m'ont jeté à terre. Les entraves se sont enfoncées dans ma colonne vertébrale et la douleur est montée comme un fil de feu jusqu'à la moelle épinière. Un soldat plus petit s'est rué sur moi et a plaqué ses genoux contre mon ventre, augmentant la pression des menottes et en me brisant presque le dos. La douleur était comme une cascade de feu. Un grand a alors attrapé un bâton et m'a écarté les jambes en le fixant sous ses genoux, tandis qu'une soldate me tenait la tête avec son pied. Une soldate me tenait la tête avec son pied. Une femme a participé à cette horreur. Activement, donc. J'ai résisté comme j'ai pu. Chaque parcelle de mon être résistait. J'invoquais tous les opprimés de l'univers et à travers l'histoire qui, comme un flot, ont renforcé ma résistance. J'ai pris conscience à ce moment-là que ma volonté est devenue celle d'une résistance absolue, celle de tous les opprimés, en tout temps et en tout lieu. Et dans le texte, il y a un grand blanc parsemé de points de suspension. J'ai crié « nazi ». La chaussure est passée de ma tête à ma bouche. Je ne pouvais plus crier. Seule manière de me soulager. « Oh mon Dieu, où es-tu, mon Dieu? Viens à mon aide. » Je l'ai dit au plus profond de moi. Signé Aïcha Odeh. Rêve de liberté à Ramallah. Réimprimé une quinzaine de fois, son témoignage « Rêve de liberté » est un succès. Écrire lui permet d'abord de se libérer d'une série de souvenirs douloureux, mais aussi de faire partager aux autres ce qui se passe derrière les murs des prisons, en particulier pour les femmes. Au sein de sa génération, celle des prisonnières politiques incarcérées dans les années 70 et 80, elle contribue ainsi au retournement du stigmate qu'ont imprimé en elle les violences infligées aux femmes. Aïcha Odeh fait partie de celles qui ont su transformer la honte en fierté, qui ont fait de l'expérience de leur emprisonnement la preuve de leur capacité à faire comme les hommes. En 2010, elle fonde avec d'autres anciennes prisonnières le collectif « Des femmes en prison pour la liberté » qui a pour but d'aider les prisonnières au retour à la vie après la détention. L'association participe au financement de projets et offre un soutien psychologique, mais aussi des thérapies par l'art, autant d'aides dont elle sait qu'elles sont nécessaires pour survivre à l'expérience carcérale. Comme tant d'autres, le parcours d'Aïcha Odeh témoigne du long combat des femmes palestiniennes. Mais sa destinée est aussi exceptionnelle parce qu'elle est celle d'une prisonnière qui a contribué, une fois libérée, à modifier l'image des femmes dans sa société en osant témoigner publiquement des épreuves traversées durant la détention. Elle a su faire ainsi de l'expérience carcérale, non plus un stigmate, mais une expression de l'émancipation des femmes, engagée à égalité avec les hommes dans la lutte contre l'occupation. La fermeté de son engagement et le soutien qu'elle a reçu des siens auront été des atouts essentiels pour sortir victorieuse de l'expérience carcérale. Cette épreuve, si largement partagée, toute génération confondue, du fait de la répression massive et systématique des Palestiniens, depuis qu'a commencé l'occupation israélienne. L'emprisonnement de masse est un élément fondamental du système de contrôle israélien qui vise autant à briser la résistance de tout un peuple qu'à disloquer la société palestinienne. Pour les seuls territoires palestiniens occupés depuis 1967, des dizaines de milliers de femmes et près de 40% des hommes ont été arrêtés et emprisonnés au moins une fois dans leur vie par les forces d'occupation israéliennes. Sur la politique de contrôle et d'incarcération de masse, on peut lire Stéphanie Lat Abdallah, La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine. Sur les conditions d'arrestation et de détention dans les prisons israéliennes, voir l'Association des droits humains et de soutien des prisonniers. Ada Meir, La conscience. www.a2da.m2er.org. Voilà, le voyage a été dur, mais c'est bien le moins qu'on pouvait faire. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.